de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous intéresser aux recherches sur le cannabis médical, menées depuis plusieurs années dans de nombreux pays, qui mettent en évidence les propriétés antalgiques et anti-inflammatoires des différentes molécules contenues dans cette plante. Le cannabis serait-il l'antidouleur du futur? Comment et pourquoi agit-il aussi efficacement dans notre cerveau, sur notre système immunitaire? Sous quelle forme et pour quelle pathologie est-il efficace? Autant de questions qui ont longtemps été tabou en France, où contrairement à de nombreux pays, la recherche et surtout l'expérimentation du cannabis à des fins thérapeutiques n'a été autorisée qu'en 2020. Alors à l'heure où ces premières expérimentations doivent enfin démarrer, le cannabis sous toutes ses formes s'invite dans notre actualité à l'Assemblée nationale avec une consultation citoyenne en ligne sur le cannabis dit de bien-être, tandis qu'un collectif de députés prône la légalisation du cannabis récréatif. Comment s'y retrouver? Plutôt que d'entretenir la confusion, nous allons nous demander comment encourager la recherche si prometteuse sur ces cannabinoïdes à visée thérapeutique qui soulèvent tant d'espoir auprès des patients, avec notre invité, le professeur Nicolas Autier, médecin psychiatre spécialiste en pharmacologie et en addictologie, désormais président du comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis, autour de la question jusqu'où nous entraînera la recherche sur le cannabis médical. Bienvenue.
La découverte des bienfaits du cannabis remonte à une trentaine d'années. Les chercheurs découvrent alors que les cannabinoïdes sont indispensables à notre bonne santé, mieux que notre corps en fabrique naturellement. On les appelle les endocannabinoïdes. Ces molécules envoient des messages à nos cellules en se fixant sur des récepteurs que nous avons dans le cerveau et dans tout le système immunitaire. Ces messages agissent sur l'équilibre général du corps, par exemple sur la faim, le sommeil, la douleur. Quand notre corps n'en fabrique pas assez, nous sommes en déficit. Et la prise de cannabinoïdes extérieurs va rétablir l'équilibre.
Extrait d'un documentaire d'Envoyé spécial sur France 2 en 2018, L'autre visage du cannabis. Bonjour Nicolas Autier.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre expérience, vos recherches, vos réflexions sur cette question qui vous occupe. En tant que médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et en addictologie, vous êtes Nicolas Autier, professeur des universités, chef du service de pharmacologie médicale, chef du service du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand. Et c'est vous qui êtes le président donc, de ce comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis thérapeutique, chargé donc d'évaluer les effets du cannabis à visée médicale suite à l'expérimentation qui commence désormais en France. Précisons qu'il ne s'agit absolument pas de légaliser le cannabis, ce n'est pas de ça dont on parle, mais bien d'évaluer ses effets thérapeutiques. Alors comment vous, en tant que médecin psychiatre, donc spécialiste de pharmacologie, d'addictologie, en êtes-vous venu à vous interroger sur ses effets thérapeutiques et à devenir le référent principal, l'auteur de nombreux articles, notamment dans le site The Conversation? C'est votre expérience, Nicolas Autier, vos patients, vos lectures, vos travaux qui vous y ont incité?
Je crois que c'est toutes ces choses-là à la fois. Mm-hmm. Effectivement, lorsqu'on suit des patients qui souffrent de maladies chroniques et pour lesquelles on n'a pas toujours des solutions très efficaces et qui restent en souffrance, eh bien on les interroge, on regarde ce qu'ils font aussi, parce que parfois ils trouvent des solutions, en tout cas, qui paraissent efficaces, même si elles ne sont pas totalement conventionnelles. Et puis on essaie de chercher d'autres solutions. Et puis, en France, on a commencé de parler de cannabis à usage thérapeutique, qu'on appelle cannabis médical maintenant, début des années 2000, où déjà le ministre de la Santé de l'époque avait demandé à ce qu'on se penche sur la question, parce qu'il y avait des travaux, notamment issus d'équipes israéliennes, qui montraient des perspectives intéressantes. Donc ça a mûri progressivement, et puis de plus en plus, certains pays se sont mobilisés bien avant nous, et puis les patients nous rapportent aussi leur expérience, parfois intéressante, c'est vrai, mais mal maîtrisé dans le sens où illégal, des produits parfois difficiles à se procurer, une consommation avec des modes d'administration pas forcément sécure, si je puis dire. Donc, il fallait faire quelque chose en France. En tout cas, il fallait rendre cette réflexion d'abord officielle. Et puis ensuite, cela a abouti à ce projet d'expérimentation de politique publique, d'accès au cannabis médical en France.
Alors, on va revenir sur les mots, hein, déjà le vocabulaire, parce qu'il est très important. On parle donc de cannabis médical. Certains parlent de cannabis récréatif, de cannabis de bien-être. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Pour faire le tri là-dedans, Nicolas Autier.
Alors, il y a cette notion de bien-être. C'est difficile de la définir. On va dire que tout usage de cannabis, souvent, il est à la recherche d'un bien-être ou d'un mieux-être ou d'un confort. Après, on peut jouer sur les termes. Que l'on soit un patient, et dans ce cas-là, nous, on va appeler ça le cannabis médical, parce que c'est un cannabis qui va être à des standards pharmaceutiques, comme des médicaments. On va exiger cette qualité-là. On va faire des prescriptions par des médecins et on va le dispenser par des pharmaciens. Donc ça, c'est le cannabis médical. Et bien sûr, il est à visée thérapeutique. De fait. Et puis, il y a le cannabis non médical. Alors, certains y mettent du bien-être aussi. Alors, on ne sait pas trop à quoi il correspond. En réalité, ça permet un peu de commencer un accès au cannabis en France avec des formes de cannabis très pauvres en tétrahydrocannabinol, en THC.
Là, on rentre dans le dur, si je veux dire, dans de cette plante. À vous parler des molécules du cannabis. Parce que le cannabis, alors le THC dont vous venez de parler, c'est ça. On a entendu parler, le LBD, ces boutiques qu'on voit s'ouvrir.
Le CBD,
c'est
oui.
CBD, pardon. Vous voyez, je m'en sors pas. Mais c'est pas tout. Le cannabis, cette plante en elle-même, contient bien plus de molécules que ça. C'est ça?
Alors oui, il contient des centaines de molécules. Quasiment une centaine de molécules qui appartiennent à une famille qu'on appelle les phytocannabinoïdes, qui sont les molécules les plus importantes. Et les deux plus présentes, c'est le THC, tétrahydrocannabinol, qui est la molécule la plus responsable des effets euphorisants du cannabis. Mm-hmm. Ce pourquoi on l'utilise à visée non médicale, à la recherche d'un effet désinhibiteur, euphorisant, planant, voire de défonce, pour certains usagers. Et puis, il y a une autre molécule qui est le CBD ou cannabidiol, qui est une molécule qui a un effet psychotrope aussi, qui est psychoactive, mais beaucoup moins que le THC, et qui a des effets un peu anxiolytiques, mais à des doses un peu plus importantes.
Qui va soulager les angoisses, vous voulez
oui,
dire
Oui, qui peut soulager les angoisses, mais qui n'aurait pas de potentiel de risque de dépendance, contrairement au THC, qui est la molécule qui favorise aussi de temps en temps les addictions au cannabis. Le CBD, lui, seul, bien sûr, ne serait pas associé à ce risque-là, et aurait des effets psychotropes moins puissants, mais qui potentiellement pourraient être intéressant en thérapeutique. Il y a des recherches qui sont faites dans les troubles anxieux, par exemple.
Parce qu'il y a plein, on va y revenir, hein, plein de pathologies différentes. La plus importante, c'est quand même, ça c'est vraiment reconnu en tant qu'antidouleur. Vous n'aimez pas, je reviens juste un instant sur le vocabulaire, vous n'aimez pas le terme de cannabis récréatif. ça ne parle alors, pas à la dictologue que vous êtes.
On est arrivé à il nous manquait ce terme-là, le fameux cannabis récréatif. Parce qu'on a l'impression que le cannabis, c'est, dans ce cas-là, soit une drogue, soit un médicament. Alors c'est plus compliqué que ça, évidemment. C'est pas le réglementaire qui fait la finalité d'usage et le pourquoi on consomme une drogue ou une substance. Le récréatif, je n'aime pas ce terme parce qu'il est incitatif, en fait. C'est-à-dire que là où on veut interdire, on utilise ce terme-là pour dire que c'est pas bien d'utiliser pour le plaisir. Alors, c'est une sorte d'interdiction du plaisir aussi qui peut se discuter. Et on dit qu'il est récréatif. Mais en disant qu'il est récréatif, en fait, je pense qu'on est plutôt incitatif à la consommation pour des jeunes consommateurs.
On va faire un vide récréation.
Et il est interdit d'inciter à la consommation selon la loi. Donc, je pense que c'est pas le bon terme. Alors, certains l'appelleront social, plus globalement. C'est-à-dire qu'il a un usage social pour faire la fête avec des gens, pour se désinhiber. Mais aussi, pour certains, pour dormir le soir. Un joint pour dormir le soir. Un joint en rentrant du travail à la place de deux whisky parce que ça détend, parce qu'on sort du boulot, on est tendu.
Et c'est pas pire.
Et ça, c'est pas pire. Mais c'est pas du récréatif, ça. C'est pas,
du récréatif, bien sûr.
Je vois pas en quoi c'est récréatif.
Bien sûr, c'est un peu un médicament.
C'est autothérapeutique.
C'est autothérapeutique, voilà. Parce qu'au fond, quand vous dites, c'est pas seulement une drogue ou un médicament, ou c'est pas l'un ou l'autre.
Oui, c'est pas l'un ou l'autre.
Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. Ce serait quoi, finalement?
Ça dépend ce que l'on en fait. Ouais, vous avez une plante. En fait, vous avez une plante qui s'appelle le cannabis ou le chanvre. C'est la même chose. Et puis vous avez des variétés de cette plante, des dizaines et des dizaines de variétés de cette plante, et qui vont se différencier notamment par la composition des molécules à l'intérieur, la quantité de THC notamment, la quantité de CBD qui va varier. Et en fonction de ces variétés, vous pourrez aussi avoir des usages différents et des finalités d'usage différentes. Et c'est ce que vous faites de la plante qui en fait son intérêt ou son risque. Si vous l'utilisez de manière maîtrisée, pour une finalité bien précise et notamment thérapeutique, Et que vous avez un contrôle dessus du mode d'administration, c'est-à-dire que vous ne la fumez pas en juin, par exemple, parce que c'est dangereux de fumer à cause de la combustion. Vous prenez beaucoup moins de risques que si vous fumez des joints ou des banques de cannabis pour vous anesthésier la pensée à 13 ou 14 ans en fumant 30 par jour, parce que vous avez en réalité un stress majeur, une angoisse majeure liée à des maltraitances dans l'enfance, par exemple. Et ce qui va vous mettre en échec scolaire, qui va entraîner de nombreuses complications. Et pourtant, au départ, c'est la même plante. Donc, c'est la finalité de l'usage. Ce sont les modalités d'usage qui vont faire aussi la dangerosité. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Le cannabis, c'est, peut être thérapeutique, et ça peut être toxique, et ça peut être une drogue. Donc, ce n'est pas parce qu'on va peut-être l'utiliser à visée médicale qu'il ne faudra pas se préoccuper des dégâts que peut faire le cannabis chez certains consommateurs plus à risque, notamment les jeunes.
On va le rappeler, ça, il faut ne pas cesser de le rappeler hein, au cours de cette émission. Et quand on parle du cannabis, là, on est autour de la question de la recherche, hein, autour du cannabis médical, du cannabis thérapeutique. Vous n'êtes pas le seul, hein, Nicolas Autier, à vous interroger là-dessus. Je propose d'écouter le neurophysiologiste Bernard Calvino, que vous connaissez, professeur honoraire, spécialiste de la douleur. Il a publié dans le magazine Cerveau et Psycho un article intitulé « Le cannabis anti-douleur du futur ?» Bernard Calvino a expliqué à notre reporter Charlie Dupio comment les cannabinoïdes agissaient dans notre cerveau finalement comme un antalgique.
Dans le cas de la douleur, les cannabinoïdes se fixent sur leurs récepteurs, sur les neurones, mais pas n'importe quel neurone, les neurones qui sont ceux que l'on connaît, que l'on a identifiés, qui interviennent dans la douleur. Dans les circuits de la douleur, je dirais qu'il y a deux ensembles. L'ensemble des neurones qui génèrent et conduisent l'information douloureuse jusqu'au cerveau. Mais on a aussi dans notre propre système nerveux central des neurones qui interviennent pour contrôler la douleur. Ces neurones inhibiteurs de la douleur, ils sont dans le tronc cérébral, c'est-à-dire dans la partie de la moelle épinière qui est au niveau de la nuque. Et ils envoient des informations descendantes sur les neurones de la moelle épinière et qui vont bloquer la transmission de l'information douloureuse. Mais là où c'est intéressant, si on revient aux cannabinoïdes, c'est que les cannabinoïdes, en particulier le delta-9-THC...
C'est l'une des principales molécules psychoactives du cannabis.
Voilà. Se fixe sur les récepteurs cannabinoïdes qui sont sur cette chaîne de neurones et ils vont les activer. Alors c'est une activation pharmacologique, c'est une activation exogène, mais qui permet de mettre en jeu ces contrôles inhibiteurs de la douleur et donc de soulager la douleur. L'information douloureuse ne remonte pas au cerveau et il n'y a pas de douleur.
Est-ce que vous auriez un message éventuellement pour Nicolas Autier, notre invité ?
Moi, je dirais, mais je n'ai pas besoin de le lui dire, il le sait pertinemment, qu'il faut, tout en étant très diplomate, compte tenu de la position qu'il occupe, se garder d'avoir des préjugés négatifs contre les cannabinoïdes. Le cannabis, il n'a été interdit que récemment dans l'histoire. Depuis des millénaires, le cannabis était utilisé. On a retrouvé des papyrus égyptiens, des inscriptions d'écriture cunéiforme qui parlaient de l'intérêt du cannabis dans le traitement de la douleur. Donc je veux dire, ça fait 3000 ans qu'on connaît les propriétés antalgiques du cannabis. Mais c'est ça le problème, c'est d'arriver à convaincre nos politiques que le cannabis est vraiment la source de molécules pharmacologiquement très intéressantes et que ce n'est pas parce qu'il procure du plaisir qu'il faut l'interdire. Voilà. Donc il faudrait arrêter cette hypocrisie en France.
Vous voulez réagir, Nicolas Autier, à ces propos du professeur Bernard Calvino. Il faut arrêter cette hypocrisie autour du cannabis et des cannabinoïdes.
Oui, je suis d'accord, il faut l'arrêter. J'ai bien aimé sa phrase juste avant aussi, c'est pas parce qu'il procure du plaisir qu'il faut l'interdire.
Oui, c'est ça. Mais au fond, c'est la question...
Mais ça fait écho d'autres choses, peut-être à de la morale plus qu'à de la science.
Mais complètement, et ça fait écho à ce qu'on... Parce que finalement, les médicaments, en anglais, on dit drugstore, hein, un magasin de drogue, ce sont des drogues. Enfin, oui. Voilà, la dose, enfin, c'est le poison qui fait la dose ou le remède. C'est de fait.
La réglementation d'un pays à un autre peut être différente pour une même substance.
Ouais,
comment on expliquerait que le cannabis, en franchissant la frontière par exemple, je sais pas, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne,
la Suisse
serait légale à un endroit, elle l'est pas à un autre. Alors on l'explique par la réglementation, mais la femme suisse, la femme allemande, l'homme français, elle n'a pas de raison qu'il y ait de différence. On n'est pas si différent que ça en termes de fonctionnement du corps humain. Donc si vous voulez, il faut différencier ce qui est de l'ordre de la réglementation et ce qui est de l'ordre de la physiologie humaine et donc du potentiel intérêt d'une substance. Après, on n'a pas, en fonction des pays, évidemment, on ne réglemente pas les choses de la même façon.
En fonction des traditions, parce qu'il y a des pays qui ont utilisé aussi...
Oui, et puis il y a une partie morale qui vient, et un peu dogmatique qui vient s'instaurer. Et puis, il faut le dire aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bernard Calvino, mais il le sait bien aussi, du point de vue de la recherche, il y a encore du retard et on n'est pas allé assez loin encore pour convaincre aussi certaines autorités sanitaires d'accélérer les choses sur l'accès à ces produits. Parce qu'on a donné accès on a redonné accès au cannabis médical depuis quelques années, après l'avoir interdit un peu partout dans le monde. On a redonné accès, mais sans faire ce travail scientifique de preuve dont on n'avait pas besoin quand on était égyptien il y a 2000 ans ou 3000 ans. Évidemment, il n'y avait pas une autorité sanitaire, une agence du médicament. Mais maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça dans nos pays.
Donc il faut faire la preuve et il faut aussi, autre travail très compliqué, arriver à isoler les molécules et à comprendre leurs effets. On a parlé de ces effets antidouleurs. On sait exactement quelles molécules dans le cannabis produisent ces effets antidouleurs ou rejouent, enfin font activer nos endocannabinoïdes à nous, enfin ce qu'on a à l'intérieur, c'est ça ?
Alors, c'est parmi les molécules du cannabis, il y a les deux principales sur la douleur pour l'instant qu'on connaît bien, c'est effectivement le THC et le CBD. Tétrahydrocannabinol, cannabidiol, qui, avec des mécanismes différents, vont agir sur la transmission de la douleur, bloquer sa transmission de la douleur et la perception de cette douleur-là, via le système cannabinoïde que l'on a en nous, nos propres récepteurs, mais via d'autres systèmes. Ça agit notamment sur la sérotonine. Donc, c'est vraiment des molécules qui sont intéressantes parce qu'elles vont agir sur plusieurs niveaux.
Et on comprend bien là leur action et comment elles agissent sur plusieurs niveaux.
On commence à comprendre de mieux en mieux comment elles fonctionnent depuis quelques années. Ça, on le sait bien. Alors, ce n'est pas parce qu'on a pu montrer, il faut être prudent aussi,
ce
n'est pas parce qu'on a montré des choses sur des cultures de cellules, sur des rats ou des souris, que l'on va pouvoir tout transposer chez l'homme. Ça serait très bien qu'on puisse faire ça, mais dans le monde du médicament, on sait que très souvent... On se plante. Et donc, il faut rester prudent. Quand on nous dit, attention, il y a une nouvelle découverte avec le cannabis, il va peut-être soigner le cancer, les gliomes, etc. Souvent, ce sont des études préliminaires, pas du tout chez l'homme, et on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Donc, il faut rester prudent en science, il faut y aller étape par étape. Mais pour le cannabis, on s'inspire aussi un peu d'une forme de science... on va dire, observationnelle et un peu de science conventionnelle aussi, où il y a des études qui sont réalisées, même s'il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça qu'on reste assez prudent en France pour dire on donnera ce cannabis médical à des patients, mais après avoir essayé les médicaments déjà disponibles et ayant fait la preuve de leur efficacité. C'est-à-dire qu'il faudra être en échec de traitement
pour pouvoir bénéficier...
accéder à ces médicaments. Oui, parce qu'on n'a pas la preuve que le cannabis médical sera plus efficace que la morphine, que dans le cancer, que sera plus efficace que les antidépresseurs ou les antiépileptiques dans la douleur neuropathique, plus efficace que les antiépileptiques dans les épilepsies. Ça, on n'en a pas la preuve. Donc là, ça serait dangereux de faire ça.
Soyons prudents et restons prudents autour de la question quelle recherche sur le cannabis médical. Allez, on continue de s'interroger juste après s'être arrêté sur la douleur, puisqu'on a parlé d'antidouleur avec Camille sur RFI. Prendre ta douleur.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Tout lui confie risqué ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins?
Camille sur RFI, ta douleur, quand la musique se révèle aussi parfois antalgique, comme le cannabis. Autour de la question, quelle recherche sur le cannabis médical en votre compagnie? Professeur Nicolas Autier, vous êtes médecin psychiatre, spécialiste en pharmacologie et addictologie et président du comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis, chargé donc d'évaluer l'expérimentation sur le cannabis médical qui vient d'être autorisée en France. L'un des derniers pays d'ailleurs à l'avoir fait, à l'avoir autorisé cette expérimentation du cannabis à usage médical. Alors pourquoi avons-nous tant attendu? On a commencé à comprendre un peu. Pourquoi ce retard sur nos voisins européens, états-uniens, sud-américains, asiatiques, qui eux mènent ces recherches déjà depuis plusieurs dizaines d'années? Les Israéliens sont d'ailleurs à la pointe de ces recherches depuis, eux, 1964, date à laquelle le pionnier, le chimiste israélien David Meshulam, a isolé le THC, dont vous avez parlé, l'un des cannabinoïdes du cannabis. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de patients atteints de cancer, d'épilepsie ou de douleurs chroniques suivent en Israël un traitement à base de cannabis. Je vous propose d'écouter le chercheur actuel, David Dedi Mehdi, pionnier des recherches sur cannabis et cancer dans son laboratoire de l'université Ternion à Haïfa.
Mon laboratoire est un laboratoire de recherche sur le cancer. Quelques mois après son ouverture, il y a 3 ans, il y a une publication d'une équipe japonaise montrant que si l'on mettait en contact du cannabis et des cellules cancéreuses, des cellules de cancer du sein, cela bloquait leur capacité à migrer et à proliférer. C'est là que j'ai commencé à regarder quelles étaient les propriétés anti-cancer du cannabis. Un de nos premiers résultats, et le plus important, est que nous avons observé une relation très spécifique entre le type de cannabis et sa capacité à attaquer des cellules cancéreuses. Le cannabis numéro 1 était efficace contre le cancer du côlon, mais pas contre celui de la prostate, alors que le cannabis numéro 2 était sans effet sur le cancer du côlon, mais agissait sur celui de la prostate. Alors quelle différence entre le cannabis numéro 1 et le cannabis numéro 2? Nous ne le savions pas. Nous avons envoyé des échantillons à un laboratoire d'analyse et ils ont identifié 5 composés. Mais assez vite, on a compris qu'il n'y avait pas seulement 5 composés distincts dans cette plante, il y a en fait plus de 144 cannabinoïdes qui sont les substances actives de la plante. Et si l'on ne savait pas lequel agissait, on ne pourrait ni ajuster les doses, ni comprendre leur mode d'action, ni répéter les expériences. Pour résoudre le problème, nous avons donc créé un système unique dans notre laboratoire, grâce auquel, aujourd'hui, nous sommes capables d'identifier tous les composés d'un plant de cannabis, et c'est une des grandes forces de ce laboratoire. En Israël, le cannabis fait partie du système de santé, le cannabis thérapeutique est légal. Donc les médecins peuvent prescrire du cannabis, mais ils prescrivent du cannabis sans préciser ni le type de cannabis, ni la dose, ni la quantité. En Israël, nous avons 8 producteurs qui sont autorisés à cultiver du cannabis à visée médicale. En fait, il y a 91 différentes variétés qu'un patient peut obtenir. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on a créé une base de données pour répertorier les composés susceptibles d'être administrés à un patient. D'un autre côté, nous avons créé une base de données de patients. Nous regardons ce qu'ils reçoivent et comment cela agit. L'idée est de croiser ces données pour comprendre quel type de cannabis est actif contre telle maladie, quels composés agissent et comment ils le font.
Impressionnants travaux menés donc par David Dedi-Méry et son équipe au laboratoire de l'université Teknon à Haïfa en Israël. Reportage diffusé sur le blog L'Extra Média, sur lequel j'ai évidemment envie de vous faire réagir, Nicolas Autier.
Oui, mais ça représente bien ce que l'on fait effectivement dans le monde en termes de recherche sur le cannabis. Effectivement, ils sont très en pointe. Alors, sur le cancer ou d'autres indications. Alors, sur le cancer, pour l'instant, c'est un peu moins avancé parce qu'on n'en est pas encore à des résultats probants pour réellement traiter des patients de leur cancer. Mais peut-être qu'un jour, ça arrivera.
Pour le moment, c'est quoi ? C'est des traitements adjuvants ?
Pour l'instant, c'est des traitements adjuvants du cancer, non pas de traiter la maladie elle-même, mais pour traiter les complications du cancer ou les complications liées au traitement anticancéreux.
À la chimiothérapie, notamment.
À la chimiothérapie anticancéreuse. Mais peut-être qu'un jour, effectivement, certaines combinaisons de molécules, c'est ce qu'ils cherchent à faire, pourront traiter certains cancers. Alors, ils font de la recherche sur des cohortes de patients. Ils décrivent les substances contenues et ils observent. Et donc ça, c'est de la recherche sur les cohortes. C'est très intéressant. Alors, il n'y a pas évidemment de comparaison avec des placebos. Il n'y a pas, d'aveugle. Parce qu'en Israël, effectivement, il l'a dit, le médecin ne prescrit pas précisément quel cannabis. Il va y avoir une discussion qui aura lieu ensuite entre celui qui va le dispenser dans le dispensaire et le patient qui va lui dire quel cannabis lui convient le mieux. Donc, vous voyez, c'est une approche très particulière qui est pas tout à fait
empirique,
où le patient a une place centrale aussi dans le choix de ce produit, mais lui-même reconnaît que voilà,
on tâtonne encore.
En même temps que l'on soigne, on recherche. C'est-à-dire que c'est un système hybride à la fois de soins et de recherche.
Qui se fait finalement, la recherche se fait au fur et à mesure et avec les patients eux-mêmes que vous aussi vous écoutez. Parce que ce sont quand même les patients eux-mêmes qui vous ont alerté, qui, comme vous le dites, se procurent parfois du cannabis, même quand c'est illégal, et qui y arrivent. Et vous les avez écoutés aussi.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut leur poser la question. Hein, parce que si on ne leur pose pas la question, ils ne nous le disent pas toujours. Parce que c'est quand même interdit.
Bien sûr.
Donc il faut aller.
Ne l'oublions pas, et à juste titre.
Et c'est interdit, en tout cas, c'est comme ça. En France, c'est interdit. Donc. On peut être pour ou contre si on veut, mais en tout cas, c'est interdit. Et donc, certains patients en consomment, et ce n'est pas uniquement des patients particulièrement jeunes ou très jeunes, hein, c'est de tous les âges, et ils rapportent certains un bénéfice. Alors souvent, ils en sont arrivés là parce qu'ils avaient des difficultés avec leur traitement, soit ils ne marchaient pas, soit ils ne les toléraient pas. Et donc, si on leur pose la question, parfois, ils nous rapportent qu'ils en consomment, et parfois, ils nous disent, finalement, je suis mieux comme ça. Et c'est vrai, j'ai l'expérience de quelques patients dont un que j'ai en tête, qui a arrêté tous les autres traitements. Alors, c'est qu'un patient, donc ça ne veut pas dire grand-chose sur un plan scientifique, mais qui a réussi à arrêter tous les autres traitements. Alors, avec des gélules, des capsules de cannabis qui s'est fait fabriquer par des gens, donc c'était même pas des... Ils ne fumaient pas des joints, et qui a pu arriver à quelque chose.
Vous n'encouragez pas du tout à fumer des joints,
alors,
on est d'accord.
Quand un patient nous en parle, on est content de le savoir, parce que ça fait partie pour nous de la thérapeutique. Mm-hmm. L'automédication fait partie de la thérapeutique. Et ensuite, on peut l'aider à faire au mieux. C'est-à-dire, effectivement, l'encourager à ne pas fumer des joints, l'encourager peut-être à vaporiser. C'est une technique qui consiste à chauffer, mais beaucoup moins fort, sans combustion, avec des dispositifs spéciaux qui s'appellent des vaporisateurs, qui permettent d'extraire juste les substances actives dans de la vapeur et de les inhaler pour avoir un effet rapide. Ou alors, on essaie de les encourager un peu sur le mode de prise, les heures de prise. Puis on recherche les effets indésirables aussi, parce que le cannabis, ce n'est pas anodin. Il y a des personnes qui sont plus anxieuses avec le cannabis, par exemple.
Donc ça peut avoir des effets très néfastes,
comme toute drogue ou tout médicament. Donc quand on traite quelqu'un, on doit raisonner en termes de bénéfices et de risques. Mm-hmm. Et donc, il faut trouver un équilibre qui soit toujours en faveur du bénéfice et qui soit rapporté aussi à la gravité de la pathologie.
Autour de la question qu'elle recherche donc sur le cannabis médical, Nicolas Autier, nouvelle question pour vous, soulevée par ma consoeur Cécile Estienne, directrice de la rédaction des mensuels Pour la Science et Cerveau et Psycho. On l'écoute.
Au-delà de ces effets antidouleurs qu'on commence à bien comprendre et tester, il semblerait que certaines molécules du cannabis puissent être utilisées comme facteur de neuroprotection pour, dans certains cas de maladies, d'Alzheimer ou de sclérose en plaques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça pourrait marcher ?
Comment ça marche ou comment ça pourrait marcher, Nicolas Autier ?
Alors, on ne sait pas tout là-dessus, mais effectivement, on sait que le système endocannabinoïde, c'est-à-dire tous ces récepteurs sur lesquels vont se fixer ces molécules...
Que nous avons endocannabinoïdes, c'est-à-dire à l'intérieur de nous.
C'est en nous. C'est-à-dire qu'en nous, on a un système qui permet d'opioïdes, c'est-à-dire l'équivalent de morphine, et on a un système en nous qui est équivalent à celui du cannabis. C'est-à-dire qu'on fabrique nos propres molécules proches du cannabis, proches du THC, par exemple. Et donc, si on a des molécules, on a des récepteurs. Sinon, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Et ces récepteurs, ils sont partout dans le corps. On les trouve au niveau du cœur, des poumons, on les trouve au niveau de la moelle, au niveau du cerveau, de la peau. Ça veut dire qu'ils servent à quelque chose, sinon on ne les aurait pas. Mm-hmm. Alors, ils interagissent avec d'autres systèmes. Et donc, ils ont un effet, pour certains d'entre eux, sur le développement neuronal, effectivement. Un effet donc, sur ce développement, voire sur des effets neuroprotecteurs. Ils ont des effets sur l'immunité, donc la protection contre les agressions extérieures, notamment les agents infectieux. Ils ont des effets aussi potentiellement sur l'inflammation. Mais alors, entre avoir un effet démontré in vitro et avoir un réel effet thérapeutique pour traiter une inflammation pathologique, si vous voulez, c'est pas toujours la même chose.
Mm-hmm. Donc, pas simple de le faire en médicament,
finalement. Non, parce que parfois, la dose qu'il faudrait administrer pour obtenir l'effet thérapeutique est énorme. Alors, soit elle ne peut même pas être contenue dans le comprimé lui-même, soit là, vous engendrez des difficultés ou des effets indésirables majeurs.
Bien sûr.
Donc, c'est là où il faut être prudent entre ce qu'on observe, qui est un potentiel intéressant sur des cultures de cellules, voire chez l'animal, et ce qu'on voudrait ensuite transposer chez l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a des travaux de recherche sur toutes les maladies neurodégénératives.
Sclérose en plaques.
Par exemple, tout ce qui va altérer le dysfonctionnement du système nerveux central, ça peut être la moelle, mais surtout au niveau du cerveau, et les démences, par exemple, notamment, maladie Parkinson aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est des pistes de recherche. Donc peut-être que ça aboutira, il faut le souhaiter, bien sûr.
Il faut donc encourager la recherche. Enfin, on est d'accord, il faut vraiment encourager la recherche.
Alors il faut l'encourager. Alors là, s'il faut l'encourager, il faut la financer.
Ouais.
Donc il y a des pays qui ont fait... L'Israël a mis beaucoup d'argent et continue dans ce domaine-là. Ils ont raison parce qu'ils sont un peu précurseurs, on va dire. Et puis il y a d'autres démarches. C'est-à-dire que financer de la recherche alors que finalement, vous dites à des producteurs de cannabis médical qu'ils ont déjà le droit de le commercialiser sans avoir fait de recherche, ça n'encourage pas forcément la recherche, si vous voulez.
C'est-à-dire que ce que vous dites, on a parlé des vocabulaires ambigus au début, mais ce que vous dites, c'est finalement être pour ou contre complique la situation et finalement... autoriser un cannabis à usage médical sans comprendre vraiment comment ça marche nuit à la recherche, finalement.
Oui, alors je ne devrais peut-être pas dire comme ça, mais
oui,
si, quand même.
C'est compliqué.
En théorie, c'est-à-dire que si vous voulez normalement développer des médicaments, puisqu'on parle du médical, vous devez apporter la preuve de l'efficacité et du moindre risque de votre traitement. Mais pour le cannabis médical, on s'est basé, et ça a été bien dit par Bernard Calvino, sur des connaissances très anciennes, mais qui étaient des connaissances certes empiriques et observationnelles. Et pas scientifique au sens où on l'entend maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas évalué les choses scientifiquement. Et donc, on a autorisé dans certains pays, au Canada, depuis plus de 20 ans, par exemple, pour d'autres raisons, pour des raisons éthiques. Parce qu'il fallait traiter la souffrance des gens pour lesquels on n'avait pas de solution.
Et comme donc, le cannabis avait l'air de marcher...
Le cannabis, pour certains, ça fonctionnait. On s'est dit, mais il n'y a pas de raison de ne pas le donner. On ne peut pas refuser. Et donc, d'un point de vue éthique, on peut le comprendre. D'un point de vue, mais en revanche, alors, les producteurs se sont développés. Ça a ouvert des brèches. Mais ça n'a pas ouvert en parallèle la même dynamique sur la recherche. C'est-à-dire qu'on s'est mis à produire, on s'est mis à vouloir prendre le marché le plus vite possible, le plus tôt possible, être le premier, parce qu'il y avait beaucoup d'argent potentiellement à gagner. Mais on n'a pas
développé la vraie recherche.
Ces sociétés qui ont développé du cannabis médical, qui sont une grosse dizaine de par le monde, qui sont importantes, n'ont pas investi dans la recherche et développement sur les produits. Pas du tout. Actuellement, elles vendent des fleurs séchées. Donc c'est le produit brut. La fleur séchée de cannabis ou essentiellement des huiles. Alors parfois, elles les mettent dans des capsules, ça devient des gélules. Mais si vous voulez, c'est la base de la base. Et elles ne sont pas capables de nous dire exactement quelle substance à l'intérieur est efficace dans leurs médicaments.
Et du coup, c'est la porte ouverte aussi à un refus catégorique, à toutes les peurs, ou alors au contraire à dire mais si, il faut tout ouvrir et tout légaliser. Donc ça, on se rend bien compte que c'est compliqué dès qu'on parle de cannabis et de recherche sur le cannabis, même à visée médicale, thérapeutique. Ça continue à soulever de nombreuses questions. Je propose d'écouter celle d'une chercheuse en neuropsychologie, spécialiste du langage, Hélène Lovenbruck, médaille de bronze du CNRS, mène ses recherches au laboratoire de physiologie et de neurocognition de l'Université de Grenoble. Elle était récemment notre invitée et elle a une question importante à vous soumettre, Nicolas Outhier.
Comment est-ce qu'on dose le cannabis thérapeutique pour ne pas verser dans ses effets délétères? Parce qu'on sait aussi que le cannabis peut avoir des effets délétères et que chez certaines personnes qui avaient comme un terrain, notamment schizophrénique, la prise de cannabis excessive, régulière pendant plusieurs années, a entraîné une décompensation psychotique qui donne lieu au fait que les personnes ensuite deviennent schizophrènes, entendent des voix, etc. Donc comment eux, ils savent qu'ils sont sur le bon dosage? Quelle est la limite en fait de ce qui est bénéfique, de ce qui peut être délétère?
Votre réponse, Nicolas Autier.
Alors, sur un plan médical, c'est une très bonne question, hein, sur un plan médical, il y a des contre-indications. Et donc, il a été évoqué une pathologie, les troubles psychotiques, dont la schizophrénie. Mm-hmm. Eh bien, par exemple, les médicaments qui contiennent du tétrahydrocannabinol, le THC, sont contre-indiqués chez les patients qui souffrent de ces maladies, mm-hmm. parce qu'effectivement, c'est un risque de décompenser la maladie. Alors, le THC, le cannabis, ne vous rend pas schizophrène. Vous avez une vulnérabilité préalable, mmh. mais ça peut accélérer l'apparition de la maladie, ce qui n'est pas rien quand même, parce
bien
que plus
sûr.
Le pronostic n'est pas le même, plus tôt ça arrive, plus ça risque d'être compliqué. Donc il y a déjà des contre-indications qui permettent de nous protéger vis-à-vis de cette molécule, le THC, pour certains risques. On évite aussi de le donner chez des personnes qui ont des troubles cardiovasculaires, parce qu'on sait aussi que le cannabis peut avoir des effets sur le cœur, accélérer le rythme cardiaque, mmh. augmenter la tension artérielle. Si vous avez fait un infarctus récemment, ouais. si vous avez fait un accident vasculaire cérébral, on évite de vous le donner. Mmh. C'est les contre-indications comme beaucoup de médicaments. Et puis, il y a une autre stratégie. Comment on va chercher la bonne dose, la bonne posologie? Je crois que c'est ça la question première oui. qu'elle nous a posée. Eh bien, on va pratiquer ce qu'on appelle la titration. C'est-à-dire qu'on va commencer avec notre médicament, notre huile par exemple, une huile qui contient du cannabidiol, du THC, et puis plein d'autres molécules que l'on pourrait caractériser, mais on ne sait pas trop en quelle quantité, des terpènes, etc. Et on va l'administrer très, très progressivement à dose mm-hmm. croissante. C'est-à-dire qu'on va augmenter, on va prendre une goutte matin, midi, soir, je donne ça de manière un peu caricaturale,
oui,
puis
oui,
on va
oui.
augmenter d'une goutte de plus matin, midi, soir,
d'accord.
tous les trois jours. C'est ce qu'on appelle la titration, c'est-à-dire qu'on augmente lentement, sur une durée assez longue, hein, qui peut être plusieurs semaines, de façon à chercher la dose minimale, efficace et bien tolérée par le patient. Il n'y a que le patient qui peut nous dire s'il la tolère bien. Donc c'est ce que ça s'appelle la titration. On ne va pas d'emblée à une dose très forte. On fait ça avec d'autres médicaments, on fait ça avec les opioïdes, la morphine par
Mais
exemple.
Mais précisément, est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les opioïdes? Vous avez dit qu'on avait des récepteurs à opioïdes, qu'on a des récepteurs à cannabis. On sait bien qu'on donne de la morphine sous oui. ordonnance, de manière très... Mais c'est faisable, et puis personne ne parle de morphine à titre récréatif. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux, justement?
La morphine, ça peut très bien être récréatif, si on le souhaite. on peut détourner de la morphine à visée récréative. Hein. Dans l'opium, il y a de la morphine. L'héroïne, c'est jamais que de la morphine un peu plus sophistiquée. Mm-hmm. La morphine, elle vient d'une plante. Et si la morphine fonctionne chez nous, c'est parce qu'on a des récepteurs à la morphine. Mmh. Pourquoi on a des récepteurs à la morphine? Parce qu'on on fabrique notre propre morphine. Donc c'est le même système que pour le cannabis.
D'accord.
On a des endorphines, des endomorphines, des encéphalines. C'est des équivalents de morphine qu'on fabrique nous-mêmes. Mais parfois, le système ne fonctionne pas assez bien. Parfois, il est dépassé par la pathologie. Et donc, on va aller le moduler, l'accentuer en prenant de la morphine
à l'extérieur,
exogène, et on va la prendre. Et c'est pareil pour le cannabis, en fait. C'est le même système. Le cannabis, il va aller moduler un système déjà existant. Le stopper, l'accélérer, etc.
Alors, le cannabis, il est moins dangereux, avec tous les guillemets possibles, que la morphine.
Il est moins dangereux dans le sens où il n'entraîne pas plus d'addiction, ça c'est sûr, peut-être oui. moins. Et surtout, il n'entraîne pas de surdose, au sens où il n'entraîne pas d'arrêt respiratoire et de décès potentiel en cas de surdose. Maintenant, il a des effets indésirables, bien sûr. Il y a des risques d'addiction, il faut le dire. Il y a un risque de dépendance, notamment pour les médicaments qui contiendront du THC, mm-hmm. parce qu'il y a un risque de dépendance, ça existe, de dépendance physique, avec des syndromes de sevrage. Mais généralement, il faut être un consommateur très ancien et en quantité importante. Et puis, il y a des vraies addictions, ça existe aussi, où les patients perdent le contrôle. Mais ça reste rare, ça reste vraiment, vraiment rare. Et puis, dans un contexte médical, surveiller, ça sera encore plus rare.
Donc pas de crainte de ce côté-là. En revanche, quoi, le cannabis est plus compliqué, complexe. Enfin, il y a plus oui. de molécules plus complexes à obtenir
revanche, oui.
que la morphine dérivée de l'opium.
Eh bien, la morphine, c'est une molécule, c'est une substance. C'est comme si on faisait une émission sur le THC thérapeutique.
D'accord.
Donc la morphine thérapeutique, on pourrait parler du THC thérapeutique. Or là, on parle de cannabis médicale à visée thérapeutique. Et donc, si on parle de cannabis, ça veut dire qu'on raisonne sur le totum de la plante, c'est-à-dire la quantité de substance qui est à l'intérieur. Alors, bien sûr, on parle toujours du THC et du CBD parce que c'est celles qu'on connaît le mieux et c'est celles qui sont les plus présentes. Mais en fait, on sait que dans la phytothérapie, et là, on est dans une phytothérapie complexe, parce qu'on a un mélange complexe, on sait parfois que c'est en associant plusieurs substances, et ça a été dit d'ailleurs par le chercheur israélien, c'est en associant plusieurs substances qu'on finit par obtenir un effet. Alors, on s'en rend compte, parce que quand on administre une seule substance, ça ne marche pas, une autre, ça ne marche pas, puis quand on en met plusieurs ensemble, ça marche.
Donc c'est bien qu'il y a l'interaction. Tout à fait comment, c'est ça.
Donc, on ne sait pas très bien lesquels il faut associer, alors on donne tout, voilà. C'est ce qu'on appelle... C'est ce que certains appellent l'effet d'entourage, c'est-à-dire qu'il faut la globalité de la plante et pas juste un isolat d'une substance pour obtenir un effet. Alors tout ça, c'est basé beaucoup sur l'observationnel, là aussi. On a quelques difficultés à l'objectiver d'un point de vue scientifique, c'est ce qu'ils essaient de faire en Israël. Mais ça fait partie des projets de recherche qu'il faudrait pouvoir réaliser.
Absolument. Donc, il faut pouvoir réaliser ces recherches autour de la question quelles recherches, justement, sur le cannabis à visée médicale, thérapeutique, comment les mener, puisqu'on en a besoin sereinement. J'ai envie de dire envers et contre tout et tous. On continue de s'interroger avec vous, Nicolas Autier, à l'écoute d'un vieux morceau de reggae qui nous est revenu aux oreilles. Police in Helicopter, interprété par John Holt sur RFI.
Yes, boss, yes, boss, yes, boss. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soja in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed.
John Holt sur RFI autour de la question pourquoi est-ce encore et toujours si compliqué en France notamment de mener des recherches de pointe sur le cannabis à usage médical. Nous nous interrogeons avec le professeur Nicolas Autier, président du comité scientifique spécialisé temporaire sur le cannabis. Je vous propose, cher Nicolas Autier, un dernier éclairage un peu énervé, on va le dire, sur cette question. C'est celui d'Élodie Cabot, anthropologue de l'INRAP, à l'esprit particulièrement ouvert.
C'est clair que c'est dommage qu'aujourd'hui, dans certains pays dits développés, en l'occurrence la France, on soit toujours bloqué sur le cannabis et que quelque part on freine la recherche, parce que là on freine automatiquement la recherche. Donc là, est-ce que c'est uniquement de l'ordre du moral, je dirais, et de la peur de certaines personnes qu'on légalise l'usage du cannabis et que tout le monde deviendrait des drogués? Parce que bon, si on grossit un peu le trait, c'est quand même ça. Hein. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'ordre du lobbyisme de certains laboratoires? Parce que, attention, vous avez quand même une plante qui coûte pas cher à produire et donc qui n'a aucun intérêt à remplacer pour les laboratoires des molécules de synthèse qui coûtent un peu plus d'argent et qui se vendent beaucoup plus cher. Mais là, on touche à des soucis, je dirais, d'ordre moraux, mais surtout d'ordre économique. Je vais prendre un autre exemple qui, moi, m'a fait halluciner il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez un produit qui s'appelle le baume du tigre. On va dire c'est chinois. Vous en trouvez dans toute l'Asie. Moi, je connais ça depuis que je suis petite. J'en ai toujours chez moi. Jusqu'à il y a peu de temps, on en trouvait en France. Ça a été interdit de vente. Pourquoi? Parce que ça concurrence à pas cher tout ce qui est crème type Voltaren. Donc, ça a été interdit. Et vous commencez maintenant seulement à en retrouver uniquement en pharmacie à des prix mais délirant. Donc, c'est la même chose pour le cannabis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez pouvoir produire un médicament, quelque part, pas trop cher, puisque la plante, elle pousse facilement, vous allez concurrencer, malheureusement, pour les laboratoires.
Je ne sais pas si vous partagez l'avis de l'anthropologue Élodie Cabot, Nicolas Autier, mais en tout cas, attention à ces arguments. Là, on ne parle même pas d'arguments moraux, mais à ces arguments uniquement économiques.
Oui, il y a plusieurs réflexions qui peuvent émaner de cette intervention. Tout d'abord, effectivement, il y a la question de la protection des produits, la protection intellectuelle, les brevets, en fait. Parce qu'effectivement, une plante, vous n'avez pas la brevetée.
Ah, on ne peut pas breveter
et
une
donc,
plante.
Et donc, du coup,
ni les molécules de la plante.
Et non, la molécule non plus. Donc, du coup, c'est compliqué, effectivement, pour les laboratoires de s'investir là-dedans, parce qu'ils peuvent être copiés du jour au lendemain. Mm-hmm. D'accord ? Donc, c'est aussi peut-être ce qui freine aussi l'investissement de certaines industries pharmaceutiques, bien qu'il y en ait quelques-unes qui se soient un peu montées sur ce modèle-là, mais dont la dernière a été rachetée, d'ailleurs, récemment. Alors oui, l'économie, c'est important. Ça a son rôle. Évidemment que l'économie, ça compte. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un rationnel, en termes de, et notamment scientifique, pour ce qui est le médical, et pour le non-médical, qu'il y ait au moins un rationnel en termes de prévention, d'éducation à l'usage. C'est-à-dire que si c'est l'économie qui dicte si on doit avoir accès ou pas à une substance, alors c'est le niveau zéro de la réflexion. C'est-à-dire qu'on peut faire ça avec toutes les drogues, celles qui rapportent le plus d'argent. La cocaïne se vend encore plus cher, alors on pourrait caricaturer en disant ça. Donc non, je pense qu'il faut que ça ait un sens. Il faut que, oui, on donne accès, non pas parce que ça rapporte de l'argent, on donne accès parce que ça a du sens et que ça sert à nous, les humains, et qu'on saura quoi en faire, et qu'on va nous aider d'ailleurs à l'utiliser, à nous conseiller pour bien l'utiliser, et pas avoir de conséquences. Que ce soit dans le médical, où là, ça s'est bien encadré, mais aussi, ça concerne le débat pour le non-médical, donc que certains appellent le récréatif, qu'on pourrait appeler social. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va rapporter des milliards à l'État que c'est la bonne raison. C'est pas parce qu'on va pouvoir faire planter du cannabis en France que c'est la bonne raison de le légaliser. C'est trop court comme réflexion. Il faut savoir, oui, si c'est associé à une éducation à l'usage, une prévention des risques, et que du coup, c'est mieux qu'avant. Si c'est pas mieux qu'avant, à quoi ça sert ?
Merci beaucoup Nicolas Autier d'être venu un peu nous recadrer les choses, nous remettre ça au clair et nous rappeler qu'il faut mener des recherches sur ce cannabis médical, mais de la bonne manière et pas seulement parce que ça risque de rapporter gros à certains, toujours les mêmes d'ailleurs, qui vont devenir encore plus gros. Merci beaucoup Nicolas Autier. Je renvoie nos amis auditeurs et internautes sur vos excellents articles parus sur le non moins excellent site The Conversation et à bientôt quand vous voulez Nicolas Autier pour continuer cette conversation.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, chers amis auditeurs, pour continuer de changer de regard et de perception, cette fois-ci sur la notion de biodiversité, en compagnie du professeur Chris Bowler, professeur titulaire de la nouvelle chaire annuelle du Collège de France, Biodiversité et Écosystème, avec Hugo Violas, bien sûr, à la réalisation. Caroline Fillette, comme toujours en coulisses. Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. On essaye de faire passer toutes vos questions dans ma voix. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.
Ce mercredi, vivez sur RFI, la soirée spéciale.